Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début de semaine. Oui, je vais replacer mon micro. Bon début de semaine, Marianne Paquette au micro. J'espère que vous allez bien. C'est cette émission de C'est bon pour la santé, oui, que vous écoutez à l'instant sur Canal M. Oui, c'est lundi hein, quand l'animatrice a du mal à nommer le titre de son émission. Aujourd'hui, je vous parle de ces jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, qui vivent différents défis, différentes contraintes, notamment lorsque vient le temps de pratiquer une activité physique, et ce, pour différentes raisons. Afin d'aider ces jeunes, il y a une équipe de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est associée au projet Choisir de gagner, qui offre mercredi prochain un webinaire. Et tout ça dans le but de faciliter les interventions auprès de ces jeunes, auprès de leurs familles aussi qui vivent de leur côté ces enjeux-là, et dans le but de contrer les obstacles lorsque vient le temps de pratiquer une activité sportive, une activité physique. J'en parlerai avec l'une des présentatrices de ce webinaire, Marie-Michèle Duquette, tout à l'heure. Et puis, eh bien, on l'observe, on le vit depuis quelques années, on en entend parler. Il y a un grand changement, deux grands changements, devrais-je dire, qui s'effectuent dans le monde de la santé, dans le milieu de la santé. Et bon, ça amène bien sûr plein de répercussions. Également, il y a le personnel soignant qui doit répondre à de nouveaux défis et de nouveaux besoins, de nouvelles réalités. On peut penser notamment à l'augmentation considérable de maladies chroniques. On dit que la moitié de la population canadienne vit en ce moment avec une maladie chronique. Il y a aussi un problème souvent du côté du suivi des traitements prescrits par le médecin ou autre personnel soignant. On dit que l'inobservance des traitements se situe entre 50 et 80 %. D'autres réalités, on pourrait penser au grand public, peut-être avec l'avènement des médias sociaux et bon, du web, qui est de plus en plus au courant des connaissances médicales, aussi à la nécessité de donner une plus grande autonomie aux patients, et je dirais aussi à cette façon que l'on a envie d'innover auprès de jeunes étudiants en médecine. Donc, tout ça, bon, est peut-être un contexte qui est favorable à une nouvelle approche. On entend parler de cette approche depuis quelques années. Ça intègre le patient à son processus de soins. Tout ça avec la collaboration étroite du personnel soignant, une approche que l'on nomme le patient partenaire. Et je trouvais que c'était important de vous en parler aujourd'hui parce que vous pourriez être amené à devenir un patient partenaire, vous ou un membre de votre famille. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'en parle à l'instant avec Sylvie Lafrenière, elle qui est infirmière au CHUM. Sylvie Lafrenière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Ce patient partenaire me semble être une valeur ajoutée lorsque vient le temps de s'intéresser au processus de soins du patient.
Effectivement. C'est une valeur ajoutée, excusez-moi, c'est une valeur ajoutée en sens où on intègre les connaissances et l'expérience de santé de patients aux connaissances de l'équipe de soins pour mieux soigner, pour avoir des soins plus sécuritaires, plus efficaces.
Mm-hmm. Ça vient de où, ce concept-là? Je pense qu'on en entend parler depuis à peu près 5 ans. C'est né de quelle façon?
Alors, historiquement, si on recule très loin, depuis une centaine d'années, avant années 70, les professionnels de la santé, les médecins, infirmiers étaient considérés comme des experts. Qui savait ce qui était le mieux pour le patient. Puis le patient et sa famille étaient rarement consultés. On ne remettait pas en question les décisions de l'équipe soignante et on ne se sentait pas à l'aise de poser des questions. À partir des années 80, il y a de plus en plus de personnes, dont celles qui vivent avec une maladie chronique, diabète, insuffisance cardiaque, arthrite, hémophilie. Ils ont exprimé leur frustration face à une perte de contrôle sur leur vie, la difficulté de se faire entendre pour améliorer leurs soins et ceux des services de santé. On s'est rendu compte que l'intégration des patients à l'équipe de soins augmenter la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a moins d'erreurs de part et d'autre au niveau des soignants puis au niveau de la personne soignée, puisqu'on a partagé l'information. Tout le monde comprend très, très bien la situation. Aussi, l'efficacité des soins, parce que le patient est lui-même, c'est un soignant. Il se soigne. Donc, il a des connaissances. Quand il vit avec une maladie chronique, peut-être depuis 5, 10, 15 ans, il sait très, très bien comment, finalement, son corps réagit à la maladie, à certains médicaments. Alors, il y a eu plusieurs initiatives en CLSC, en CHSLD, à partir des années 80, en santé mentale, en centre de réadaptation, pour essayer de créer un réel partenariat, une équipe entre les patients, les infirmières, mais ça demeurait assez limité. Puis dans les années 2000, de plus en plus, il y a eu des recherches où on a introduit des patients, puis leurs proches, pour construire puis tester des interventions plus efficaces. Alors, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, mais c'était vraiment très, très parcellaire, je vous dirais. Mm-hmm. Mais au Québec, le vrai virage patient partenaire, il a débuté, comme vous l'avez dit, il y a 5 ans, en 2010, suite aux efforts organisés de patients déterminés à convaincre des médecins puis des gestionnaires influents à changer leur approche, à utiliser les savoirs des patients au quotidien, dans leur pratique à eux, mais aussi pour former les médecins et les infirmières. Mm-hmm. On a besoin de cette expérience-là. On a besoin d'apprendre des patients qui, jour après jour, c'est eux qui ont cette expérience-là. Comment je fais pour continuer à vivre avec cette maladie-là? Comment je fais pour continuer à travailler, à exercer mon rôle de parent, à exercer mon rôle social? Donc, on apprend donc pour les former, pour accompagner d'autres patients. Qui auraient un parcours de soins similaire au leur. Donc, ça devient des patients ressources auprès des autres patients. Et aussi des patients ressources auprès de l'organisation d'un établissement de santé pour qu'on puisse entendre la perspective de ces patients-là pour enrichir puis orienter les discussions de gestion. Ça va bien au-delà d'une simple consultation auquel on était habitué un petit peu pour se faire avoir bonne conscience. Oui. C'est pas juste de consulter, c'est dès le départ de partager ensemble l'information, analyser les choses ensemble et puis en venir à une décision, un plan d'intervention qui, si c'est dans une relation soignant-soigné individuelle, qui va être beaucoup plus efficace. Et si c'est au niveau pour aider d'autres patients, avoir des meilleurs services, des meilleures façons de faire au niveau de l'organisation.
Sylvie Lafrenière, c'est quand que l'on sait qu'on est devenu un patient partenaire? Est-ce que c'est dès le départ, dès la première consultation avec notre médecin, bien sûr dans le cas d'une maladie chronique ou encore d'une maladie mentale, ou c'est quelque chose qui se développe? Est-ce qu'à un moment donné ou l'autre, le médecin dit « Est-ce que tu souhaites devenir un patient partenaire? » Comment ça se crée, cette relation-là?
Alors, c'est à deux niveaux. Bien sûr, il se peut que vous soyez sollicité par un membre d'une équipe soignante pour dire « Est-ce que vous seriez intéressé à être un patient père aidant, aider d'autres patients, ou à participer, à discuter, à faire partie d'un comité pour améliorer nos soins sur telle unité de soins, dans tel centre d'hébergement? On a besoin de votre input, votre expérience, vos connaissances. Mm-hmm. » Ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui ne sera, on vous demandera pas dans une relation, par exemple, dans un hôpital où vous êtes admis ou en clinique, en CLSC, voulez-vous devenir patient partenaire? Mm-hmm. Ça va plus se démontrer lorsque on va vous considérer comme étant un acteur de vos soins. Alors, on va pas seulement vous dire, ben voici ce qu'on pense que vous avez, voici ce que vous devriez faire, mais qu'on va vous demander aussi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez fait à date? Est-ce que ce que on vous suggère, est-ce que vous vous sentez capable de le faire à la maison? Est-ce que vous croyez que il y a des inconvénients? Est-ce que vous avez déjà vécu, subi ce traitement-là? Qu'est-ce que ça a donné comme complication? Et aussi, la personne va avoir une ouverture à ce que vous remettiez en cause ce qu'il vous propose,
oui.
Soit comme intervenant ou comme équipe. L'autre chose, c'est que de reconnaître que vous êtes un patient partenaire, bien, ça va être aussi, si c'est votre désir, si vous êtes ouvert à ça, qu'on vous donne toute l'information dont vous avez besoin, c'est-à-dire le résultat de vos tests, des tests sanguins ou autres que vous avez subis, pour que vous puissiez vous aussi vous faire une tête par rapport à ça, de vous expliquer vraiment pourquoi on choisit tel type de médicament, pourquoi on augmente la dose. Donc, ça prend vraiment, vous allez sentir cette approche-là dans la façon dont on va communiquer avec vous, dont on va entrer en relation.
Quel est le retour, Sylvie, du personnel soignant? Est-ce que pour des médecins, ça pourrait, du premier abord, être contraignant, de dire « je dois prendre du temps pour expliquer, je n'ai pas le temps de m'asseoir ». Est-ce que ça a été ce retour-là au départ du personnel soignant ou, au contraire, ils sont prêts à collaborer?
Bon, je vous dirais que actuellement, l'approche patient-partenaire n'est pas appliquée partout. C'est vraiment à géométrie variable. Par ailleurs, ceux qui, de plus en plus, utilisent cette approche-là, effectivement, il y a une contrainte, il peut y avoir une contrainte de temps, effectivement. Mais d'un autre côté, par exemple, si je vous donne un exemple. En CLSC, dans certaines cliniques, il y a des infirmières qui, lorsque vous avez un nouveau diagnostic, par exemple de diabète ou d'hypertension artérielle, vont vous offrir d'avoir un enseignement sur 5 semaines, par exemple, une fois par semaine. Plutôt que d'arriver et de vous dire, ben voici, on va couvrir ça, 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 et on commence. Bien, elles vont vous poser comme question, par quoi voulez-vous commencer? Il y a différents sujets donc qu'on peut aborder. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? En faisant ça, bien, finalement, on prend du temps pour en gagner.
Ouais.
On prend du temps pour en gagner parce qu'on va aller droit au but en fonction de ce qui est important pour vous. On va éviter des complications. On va éviter aussi que vous n'ayez pas ce qu'il faut comme information pour tout de suite prendre les décisions qui s'imposent ou faire les soins qui s'imposent. Même chose pour un médecin, un physiothérapeute. En prenant un peu de temps pour faire équipe, on a des soins beaucoup plus efficaces. Parce que, vous l'avez dit tantôt, selon certaines études, 50% des patients ne suivent pas nécessairement les ordonnances, les plans de traitement, les plans de soins. Alors, à quoi ça sert de passer du temps et qu'après ça, ce temps-là, rendu à la maison, quand on fait soi-même ses soins, ben on n'est pas en accord. Donc, c'est un temps qui n'est pas efficace.
Oui. Et en même temps, ce que je trouve de très positif et ce que l'on n'entend pas assez souvent, je trouve, c'est cette espèce de désir de partage de la connaissance. C'est-à-dire, ce n'est plus que le médecin ou l'infirmière ou un autre membre du personnel soignant qui connaît, qui a les connaissances, mais il arrive à les transmettre pour après que ça appartienne au patient, à sa famille, à ses proches qui s'intéressent à sa santé également.
Effectivement, il faut une maladie, on peut connaître la maladie, on peut connaître les habitudes de santé qu'il faut appliquer pour rester en santé. Les professionnels de la santé sont bien au fait de tout ça. Mais chez un individu, comment ça se déroule? Comment, par exemple, si je prends l'exemple d'un parent qui connaît son enfant de A à Z et qui s'en va à l'hôpital parce que son enfant a un gros mal de ventre. Et finalement, l'enfant à l'examen est très stoïque. La mère croit que l'enfant a peut-être une appendicite, quelque chose dans ce genre-là, mais à l'auscultation, l'enfant reste de marbre, ne bouge pas. Le médecin en conclut, bof. Finalement, si la mère ose dire, écoutez, là, cet enfant-là, lorsqu'il est souffrant, ça ne paraît pas, il ne pleure pas, mm-hmm. il est très dur à son corps. Alors, c'est des informations extrêmement importantes à partager et aussi à écouter. Il faut faire vraiment équipe. L'expérience, par exemple, d'avoir une arthrite rhumatoïde mm-hmm. ou d'avoir eu un cancer du sein ou un épisode de psychose, lorsque ce que le personnel de soins peut apporter, c'est la connaissance de ces maladies-là, de quelles sont les meilleures données probantes, les interventions qui ont été identifiées comme les plus efficaces. Mais le patient lui-même qui peut accompagner un autre patient, une autre famille, oui. mm-hmm. lui peut dire, ben voici, moi, comment j'ai vécu ça? Comment vis-tu ça? De s'intéresser peut-être à des choses qu'on ne s'est pas intéressé dans la recherche. Par exemple, quand le médecin vous prescrit pour une sclérodermie diffuse, un médicament qui doit être pris en grande quantité une fois par semaine et que tout de suite après, bon, le patient cesse après une ou deux semaines parce qu'il n'est pas capable de le tolérer, il est nauséeux. Rencontre un autre patient qui lui dit, ben écoute, fractionne-le, prends-en la moitié le matin, mm-hmm. la moitié l'après-midi, fais tel type d'activité, ça va t'aider. Alors, c'est issu de l'expérience.
Oui.
Peut-être que ça ne s'adapte pas. Chaque personne est différente, mais il y a un transfert de connaissances qui est important. Autant au sein des équipes, de savoir comment nous, on pense qu'on fait bien. Mais on n'est pas de l'autre côté de la clôture.
Ouais.
Alors, comment c'est vécu par le patient, les soins que l'on donne, les différentes techniques de soins, la façon dont on enseigne, comment c'est vu?
Mais je trouve que ça témoigne d'une belle dose d'humilité de la part des médecins et du personnel soignant.
C'est pour ça que c'est un grand défi, c'est un grand changement. Parce que la façon dont on a été, les professionnels de la santé, je vous dirais élevés, où on a appris
ouais.
les
mm-hmm.
choses, peut-être de ma génération, j'ai quand même plus de 50 ans.
Vous êtes une infirmière d'expérience, Sylvie
Lafrenière. On va dire ça. on nous enseignait à être des experts.
Oui. Oui.
Et de dire, oui, je suis experte au niveau de cette maladie-là, au niveau de comment garder en santé, par exemple, un bébé qui vient de naître, et patati patata. Donc, le patient a des choses à m'apprendre. Mais vous savez, lorsqu'on a, comme moi, 35 ans d'expérience, on a appris qu'on ne savait pas tout.
Oui.
Et que les patients nous ont beaucoup appris eux-mêmes.
Oui. Et en terminant, Sylvie, j'imagine que ça arrivera de moins en moins, cette résistance-là, parce que les patients partenaires vont s'immiscer dans les cours, dans les écoles de médecine et auront des contacts avec les jeunes médecins ou, bon, les jeunes infirmières ou n'importe quelle jeune
oui.
personne qui vient du système de la santé
oui.
assez rapidement.
Oui, c'est à écouter depuis 4 à 5 ans. C'est vraiment... C'est une approche là, qui est utilisée en formation. Et la façon, l'approche des infirmières, des médecins, des autres professionnels est vraiment teintée de ça. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est limité aussi par une des difficultés, bien, c'est pour respecter les limites puis les désirs des patients eux-mêmes.
Oui.
Il y en a qui veulent se faire prendre en charge. Il y en a qui ont le désir de ne pas savoir. Il y a les problèmes de communication aussi. Ça prend une communication qui est très efficace. Donc, toute la barrière de langue, la compréhension des mots, l'interprétation différente des mots selon les cultures, ça peut avoir une difficulté au niveau du patient partenariat, patient soignant. Et ça demande aux professionnels d'apprendre à apprendre des patients, à manifester de l'ouverture,
et de l'écoute.
Et accepter les remises en question, de partager les informations. À un moment donné, je me suis dit, ben, une idée de fou, mais qui a commencé aux États-Unis. Vous savez, dans les hôpitaux, à chaque changement de corps de travail, les infirmières se donnent un rapport sur les différents patients. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans certains hôpitaux américains, on donne le rapport au chevet du patient. Donc, on ne cache pas rien au patient. Et même le patient peut éviter des erreurs en disant « Oups, vous dites que tel traitement est dû, je l'ai déjà eu. » Ou vous me dites que « Bon, je vais avoir tel dosage. » Moi, ce que j'en sais, c'est quand j'ai ce dosage-là, je ne me sens pas bien. Alors, ça va être intéressant.
Oui, et ça devient très précieux. Sylvie Lafrenière, je le rappelle, vous êtes infirmière au CHUM. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette approche que l'on nomme patient-partenaire et qui a plusieurs avantages. Merci, Sylvie.
C'est un grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Marie-Michèle Duquette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une maîtrise en loisirs, culture et tourisme portant sur les jeunes avec des limitations fonctionnelles et vous êtes également étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières, là pour nous parler de ce webinaire offert gratuitement mercredi prochain, 3 février, et qui tente d'amenuiser les obstacles que peuvent vivre les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme lorsque vient le temps de faire une activité physique. Quelles sont ces difficultés rencontrées par les jeunes qui ont un TSA, Marie-Michèle?
Oui, en fait, pour les jeunes avec un TSA, on a vraiment, dans la recherche qu'on a faite avec Choisir de gagner, on a vraiment séparé les contraintes donc, qui sont vécues par le jeune lui-même. Donc, vraiment, qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme amène comme difficulté, mais il y a aussi les autres dans l'activité, donc soit les pères, soit les entraîneurs, soit les autres parents, soit Il y a aussi tout l'environnement, donc ils n'ont pas nécessairement besoin de fauteuil roulant ou de quoi que ce soit, mais souvent le bruit, la lumière, la température, c'est vraiment des choses qui peuvent nuire à l'activité physique, dans le fond, pour ces jeunes-là.
Et au plaisir ressenti par le jeune qui effectue l'activité.
Oui, exactement.
Le webinaire, il s'adresse aux familles ou davantage aux intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes?
En fait, ça s'adresse à tout le monde qui s'intéresse aux jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme et à l'activité physique. Donc, présentement, oui, il y a des intervenants qui sont inscrits, mais il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de professeurs d'éducation physique aussi. Dans le fond, le webinaire se base sur un guide qui a déjà été développé. Puis ce guide-là, il est vraiment axé sur les personnes qui sont sur le terrain, donc qui sont directement avec les jeunes. Mm-hmm. Donc, que ce soit l'entraîneur à la ville, lui, est comme habitué à avoir une activité avec des jeunes qui sont neurotypiques, donc qui sont comme réguliers, si on veut.
Ouais.
Puis que lui, c'est la première fois qu'il fait face avec un jeune qui a un trouble du spectre de l'autisme, donc il se demande ben, qu'est-ce que je fais et comment j'adapte ça. Donc, le guide a vraiment été formé, à, pas formé, mais développé en ce sens-là. Puis le webinaire va présenter ces guides-là, dans le fond.
Oui. Quels seraient vos conseils, Marie-Michel, pour les parents qui nous écoutent, qui ont un enfant à la maison qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui auraient envie d'intégrer l'activité physique au quotidien dans la vie de la famille, dans la vie de cet enfant?
Mais en fait, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir aller trop vite puis de ne pas avoir des objectifs ou des attentes qui peuvent être trop grands pour le parent puis pour le jeune. Donc, si, par exemple, on veut que... Je prends l'exemple de la natation, mais si on veut que le jeune fasse de la natation, mais pourquoi pas commencer en lui présentant des vidéos ou commencer à lui en parler ou juste aller assister à un cours comme spectateur. Donc, d'y aller graduellement, puis d'y aller à des moments où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, de ne pas nécessairement commencer à, avec le dimanche après-midi où il y a 4 cours de piscine qui se font en même temps. Donc.
Puis qu'il y a 56 000 personnes dans la piscine en même temps. Là.
Exactement. Donc, d'y aller plus graduellement. Puis, ça se fait à petite échelle. Donc, de ne pas avoir peur de justement y aller à petite échelle. Puis, ça va finir qu'il va peut-être être là, avec 52 personnes dans la piscine, peut-être que non, mais au moins, il y a une approche graduelle qui se fait.
Le webinaire, je le disais, est offert gratuitement 3 février de 12h30 à 13h30. Quels seront les grands thèmes qui seront abordés pendant ce 60 minutes?
En fait, pendant les 60 minutes, on va aborder les effets de l'activité physique pour ces jeunes-là. Il va y avoir aussi les contraintes qui ont été vécues par les jeunes qu'on a interrogés et qui sont recensées dans la littérature. Puis on va vraiment axer sur les moyens de diminuer ces contraintes-là. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? C'est surtout aussi de montrer que chacun a son expertise, puis chacun va aussi pouvoir amener des moyens que nous, on n'a peut-être pas pensé. Donc, c'est vraiment de démontrer que c'est pas si compliqué que ça, puis il y a plein de choses qui peuvent être faites.
Oui, parce que les participants seront amenés à communiquer aussi et à partager leur expérience.
Oui, exactement. En fait, le webinaire, ça va être beaucoup moi et ma collègue qui vont parler, mais il va aussi avoir un moment où ils vont pouvoir échanger avec nous, même s'ils n'ont pas de micro et de caméra pour échanger, ils vont avoir le clavardage pour qu'ils puissent échanger entre eux.
Et, ouais, et communiquer trucs et astuces. Marie-Michel Duquette, il reste de la place pour le webinaire afin de s'inscrire?
Oui, en fait, c'est illimité, les places sont illimitées et le webinaire sera enregistré aussi. Donc, si vous dites « Ah, ben c'est plate, je ne suis pas disponible à ce moment-là », ben vous pouvez tout de même m'envoyer un email. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'envoyer un email. Je vais vous ajouter à la liste des
questions
et vous pourrez voir l'enregistrement plus tard.
Et pour entrer en contact avec vous et s'inscrire à ce webinaire, marie-michel.duquette@uqtr.ca. Merci beaucoup, Marie-Michel Duquette. Toujours un plaisir de vous parler.
Mais oui, je suis rendue une habituée de votre émission.
Avec plaisir. Au revoir.
Oui, au revoir.
Merci, Jean-Sébastien Laliberté, Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Thank you.